Bien, alors avant de travailler et de faire ce podcast sur la technique du calendrier, donc nous allons tout de suite voir comment conduire une séance, c'est-à-dire quelques conseils pratiques, concrets, à la fois pour démarrer la séance et puis pour la conduire. Donc je vais conduire cette séance, il n'y aura pas de musique parce que je crée un environnement musical très léger, c'est une musique de Reiki qui rythme la séance. La plupart du temps, les gens l'apprécient. C'est extrêmement rare qu'il y ait des retours négatifs sur cette musique. Si quelqu'un me demande de la couper, je la coupe, on recommence la séance, il n'y a aucun souci. Voilà, ça favorise en général la détente, le lâcher prise pendant la phase d'induction. Donc, nous allons voir comment démarrer la séance, comment la conduire. Je vais faire une séance sans la musique. Je vais m'arrêter sur chaque point, hein, donc ça ne sera pas une séance fluide comme nous pourrions la faire en cabinet. Je vais m'arrêter sur les points importants. Je vais noter et je vais vous indiquer là où il est intéressant de noter un point particulier. Alors déjà, vous aurez bien évidemment, lors de l'entretien préliminaire, et nous reviendrons sur l'entretien préliminaire dans un autre podcast, vous aurez bien évidemment commencé à dégrossir la séance, c'est-à-dire que vous allez expliquer à votre client, à votre patient, comment ça se passe. En général, les clients, lors de l'entretien préliminaire, souhaitent d'eux-mêmes connaître les modalités et le processus de la séance. Donc, on vous demande, bah voilà, concrètement, comment ça se passe. Bah, concrètement, vous allez leur expliquer que vous vous êtes allongé ici, non, pardon, vous, lapsus. Vous vous êtes assis ici, eux, ils sont allongés là. Il y a deux phases dans la séance. Première phase est ce qu'on appelle une induction, une profonde relaxation. Deuxième phase, ce sera la phase de travail, c'est-à-dire les visualisations et expliquer ce que sont les visualisations. Donc la première phase, cette induction pour lâcher prise, pour amener dans un état particulier ou un état hypnotique. Vous pouvez préciser, ajouter, si vous le souhaitez, hypnotique entre guillemets, parce que vous ne savez pas et personne ne sait où commence l'état d'hypnose et où il finit. Que cet état hypnotique est un vecteur en fait qui va nous servir à envoyer les informations à notre inconscient, à l'inconscient, que nous pensons après un instant de lâcher prise, après un instant d'induction, de profonde relaxation, une fois que nous sommes en état de transe, puisque c'est le terme consacré. Nous allons pouvoir commencer la phase de travail, les visualisations qui vont permettre au sujet, au patient, de générer des images, des émotions, des sensations, et que l'inconscient va capter tout ou partie de ces images, de ces émotions, de ces sensations, et travailler avec, et les restituer pour sublimer un comportement, pour recouvrir un comportement gênant, pour atténuer une souffrance, pour modifier un comportement. Donc voilà, vous êtes assis là, lui ou elle est allongé là, deux phases dans la séance, induction, visualisation. Les visualisations, ce sont ces petites scènes mentales, parce qu'il aura ou elle aura les yeux fermés pendant la séance, et ça il faut le dire, il faut tout expliquer encore une fois, tout en détail. Donc les visualisations du passé, des petites scènes mentales du passé, du présent ou des projections dans l'avenir où le but du jeu est d'essayer de générer au maximum des images et avec ces images des émotions ou des sensations. Et là aussi, expliquer que si le sujet génère des images fortes, qu'il réussit à se projeter très bien, profondément dans ses visualisations et avec cela ressentir très bien, ou se projeter un peu moins bien, moins ressentir ou pas du tout, c'est pareil. C'est pareil parce que dans l'absolu, tout cela c'est du ressenti conscient, c'est-à-dire que même dans cet état particulier, on ressent que nous sommes plus ou moins, entre guillemets, dans un état particulier et dans tous les cas que nous générant plus ou moins bien ce que nous demande l'hypnothérapeute. Mais ça, c'est du conscient, et que finalement, on ne sait pas, in fine, ce que l'inconscient utilise comme matériau pour travailler. Donc quelque chose qui pourrait nous paraître extrêmement dérisoire, une image dérisoire, une image floue, ou peut-être même quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on demande, ou alors une émotion, ou une sensation dérisoire, ou peut-être même pas d'émotion, pas de sensation. Lui, l'inconscient, dans l'absolu, il peut utiliser. Voilà, on ne connaît pas les matériaux qui régissent notre vie psychique. Donc, consciemment, on peut se dire qu'effectivement, nous ne générons rien. Mais en vérité, peut-être que nous générons des matériaux suffisants à notre insu, et c'est même certain, puisque c'est comme ça que notre vie psychique fonctionne, sans pouvoir le prouver encore une fois, nous générons des matériaux puissants à notre insu que l'inconscient veut utiliser. Idem d'ailleurs, et ça vous pouvez l'expliquer à l'entretien préliminaire, idem pour la phase d'induction. C'est-à-dire que moi en général je parle, et vous le verrez, de lourdeur, et ensuite il y a d'autres étapes, l'approfondissement dans la phase d'induction, le renforcement de la transe. Le sujet peut très bien ressentir des sensations physiques, alors c'est de la lourdeur, de la légèreté, du flottement, etc. Il peut très bien se projeter dans les lieux où je vais lui demander de se balader. Ou pas du tout, ou très peu, ou pas du tout. Et ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, l'inconscient ne sera pas plus ou moins ouvert, plus ou moins réceptif et plus ou moins capable de travailler au profit de notre patient. Alors tout cela, vous l'expliquez pendant l'entretien, vous allez en discuter avec votre client, il va vous poser des questions, vous allez préciser. Je vous engage bien évidemment les premiers temps à imaginer les questions qu'il peut vous poser. Cela facilitera d'autant plus le dialogue et la confiance qu'il pourra vous accorder lors des premières séances. Ensuite, ça viendra très vite, vous serez au point sur votre discours, il n'y a aucun souci. Et puis, lorsqu'il reviendra pour la première séance, bien évidemment, vous allez lui demander de vous allonger. Vous allez reprendre aussi certaines instructions, c'est-à-dire que vous allez lui expliquer que s'il n'est pas à l'aise pendant la séance, allongé, il peut bouger, croiser, décroiser les jambes, se gratter, tousser, tout cela, ça n'a pas d'importance, ça ne dérange en rien la séance. Au contraire, ce qui est important, c'est de ne pas se focaliser, il ne faut pas focaliser un ressenti physique désagréable ou sur une idée obsessionnel, est-ce que je peux bouger, pas bouger, est-ce que je vais déranger la séance? Non, tout ça, il faut le faire, au contraire, c'est ça qui dérangerait la séance. Vous allez également lui dire qu'il y aura peut-être des bruits à l'extérieur, en fonction du lieu où vous allez pratiquer. Les bruits, il y a plusieurs possibilités, soit ils ne sont pas présents, ils ne sont pas entendus, donc de ce côté, il n'y a pas de souci, soit ils sont entendus, ils sont en fond sonore, et justement parce qu'en fond sonore, ils ne sont pas gênants. C'est ce qui se passe la plupart du temps. On les entend, mais dans cet état particulier où nous sommes, ils ne sont absolument pas gênants. Ils sont intégrés très facilement. Bon, et comme on fluctue également dans une séance, on est plus ou moins profond. Voilà, on peut les entendre, ne pas les entendre. La plupart du temps, c'est pas gênant. Et s'ils sont gênants ou irritants, dans ce cas-là, il faut faire un effort de revenir au son de la voix de l'hypnothérapeute, de revenir à ce que le patient génère. Donc à ce que nous générons, à ce que nous ressentons, et en général, ça se passe bien. Alors maintenant, quelques instructions un peu pratiques en fait, par rapport à la mise en œuvre de la séance, pour vous-même, futur hypnothérapeute. Le ton de la voix, pendant la séance, au début de la séance, pour donner quelques instructions, et ensuite le ton de la voix. Bien évidemment, il doit être calme, serein, neutre, dans l'idéal pendant la séance, mais pas au début, mais enfin pas pendant la phase où vous parlez des instructions, où vous donnez des instructions, mais ensuite quand la séance va se mettre en œuvre, il est bien de mettre en œuvre une voix monocorde, surtout pendant la phase d'induction en fait. Après, vous pouvez reprendre une voix plus naturelle pour donner les instructions pour les visualisations. Donc, une voix calme, sereine, posée. Bien évidemment, il est très important d'articuler pour que votre patient comprenne ce que vous voulez lui dire. Alors, que ce soit dans la phase d'induction ou que ce soit dans la phase de visualisation, il est aussi important de donner des instructions claires et précises. Donc, vous n'allez pas partir sur une phrase de 2-3 minutes en lui disant de faire ceci, cela, 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 ou finalement, à la fin de la phrase, il ne saurait plus ce par quoi il doit commencer, il serait perdu dans sa séance. Donc, des instructions courtes, précises et claires. Vous allez aussi, pendant la séance, tant dans la phase d'induction que dans la phase de visualisation, articuler, insister, accentuer sur certains mots, des mots importants, comme si on voulait donner le sentiment qu'ils se gravent dans l'inconscient. Alors, si vous êtes une personne, souvent les femmes, qui avaient une voix un peu plus aiguë, par exemple, essayez de travailler cette voix, essayez de faire en sorte, au moins pendant la séance, que votre voix soit plus, je ne vais pas dire rauque, mais un peu plus chaude, un peu plus profonde. Bon, dans l'absolu, là, c'est pareil, on ne sait pas si le ton de la voix, on le pense, mais on n'en a aucune preuve, le ton de la voix est important dans le ressenti et dans ce que l'inconscient va pouvoir capter ou pas. Maintenant, il est clair que pour faire lâcher prise quelqu'un dans une phase d'induction, l'amener dans un état particulier, lui-même de calme et de sérénité, concentré sur lui-même, il est évident qu'une voix calme, profonde et chaude sera plus facile qu'une voix extrêmement aiguë, nerveuse et tendue. Bien évidemment, il est important de connaître son texte. On en reparlera ultérieurement, mais comme je le dis souvent, la confiance que votre client va vous accorder, c'est aussi par le discours que vous tenez. Donc si vous connaissez bien votre texte, qui va petit à petit s'inscrire en vous-même. Hein. Au début, vous aurez peut-être des notes ou même le texte devant vous. Vous l'aurez travaillé plusieurs fois bien avant de vous lancer en cabinet. Bien connaître son texte, éviter de bafouiller dans la mesure du possible, éviter de faire des lapsus. Bon, bafouiller et les lapsus, parfois et même la plupart du temps, c'est un peu comme les sons à l'extérieur. Hein. Une cloche qui va sonner, comme dans mon cabinet par exemple, la cloche d'un clocher, un klaxon au lointain, tout ça, ça s'inscrit la plupart du temps dans le fond sonore et le client, le patient, ne va même pas réaliser que vous avez potentiellement bafouillé ou fait ce lapsus. Maintenant, si c'est à chaque mot, effectivement, ça peut être dérangeant. Donc, des instructions claires, comme je vous le disais. La première fois que votre client vient pour la séance, et juste avant la séance, vous allez le faire s'allonger et lui redonner quelques explications, comme je vous le disais préalablement, se mettre à l'aise, pouvoir ne pas rester bloqué sur une sensation physique désagréable, croiser, décroiser les jambes, etc., se gratter, tousser. Il aura bien évidemment les yeux fermés et vous allez lui expliquer que pendant toute la séance, il aura les yeux fermés. Sauf peut-être au début, vous allez, comme moi je le fais, lui demander de fixer un point au plafond. Ce point, il va l'accompagner en comptant à rebours à partir de 100. Et quand ses yeux seront fatigués, il arrêtera le décompte à n'importe quel moment. Il baissera ses paupières, fermera ses yeux et se laissera se relâcher totalement. Et à partir de ce moment-là, vous allez prendre le relais dans votre discours et ça sera la phase d'induction qui commence, qui va durer environ 15, 20, 25 minutes. Moi, pour ma part, c'est en général 20, 25 minutes. Bien évidemment, vous aurez pensé à lui demander de couper son téléphone mobile, couper les vôtres. Là encore, c'est pas dramatique, c'est arrivé assez souvent qu'il y ait des sonneries et ce n'est pas gênant. Bon, parfois, la personne est très profonde, entre guillemets, dans son état, ça le fait revenir. Sinon, si ce sont des vibrations, par exemple, ça peut aussi le faire revenir, mais la plupart du temps, les gens reviennent après en se reconcentrant assez facilement. Vous continuez votre discours, vous faites en sorte, vous faites comme si rien ne s'était passé, et en général, tout se passe très bien. Il y a, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais le répéter, mais justement, c'est à propos des répétitions, il est important dans notre technique de répéter les instructions, c'est-à-dire que vous pouvez répéter des mots importants, un peu comme tout à l'heure quand on les accentuait, ces instructions ou ces mots, là c'est important aussi, comme si on voulait les graver encore une fois dans l'inconscient, plus profondément, les répéter. Vous pouvez, comme moi je le fais, accompagner votre sens d'une musique de relaxation, de détente. Ça, c'est en fonction de votre propre ressenti. Vous allez également couper les sons, ça, nous l'avons déjà dit. Vous allez, encore une fois, tout expliquer au début de la séance. Ça, c'est fondamental pour ne pas laisser le client perdu pendant sa séance. C'est-à-dire que vous allez lui dire, je vais tout vous expliquer. Vous vous collez au son de ma voix, vous vous collez à mon discours, vous mettez en œuvre ce que je vous demande de mettre en œuvre, que ce soit au niveau des ressentis physiques, vous verrez, il y a d'autres étapes, descendre les marches, donc ça c'est l'approfondissement de l'état d'hypnose. Idem dans les visualisations, vous lui expliquez que vous allez décrire la visualisation, qu'il la fera ensuite, vous lui laisserez une ou deux minutes, et puis ensuite on passera à l'autre visualisation. Donc vous décrivez tout et vous lui expliquez que vous allez tout lui décrire pour que, dès le début de la séance, il sache qu'il ne sera pas livré à lui-même, que vous allez, lui, il n'a qu'une chose à faire, c'est essayer de ressentir, de mettre en œuvre les visualisations et les ressentis que vous lui demandez de mettre en œuvre. Bien. Nous allons cesser ce podcast ici, l'arrêter ici. Nous allons, dans le podcast suivant, qui est la suite de celui-ci, nous allons donc mettre en œuvre une induction commentée. Je vais la commenter. Et ensuite, dans le troisième podcast, on finira ce chapitre sur la conduite d'une séance, sur la régression et sur la technique du calendrier. Donc, on finira ce chapitre avec la fameuse technique du calendrier. Voilà, donc on aura pris finalement une technique qu'on utilise peu, la technique du calendrier, puisqu'encore une fois, régression d'âge, pour ma part, je n'en pratique pas, peut-être en pratiquerez-vous, mais dans tous les cas, comme je vous l'expliquais, vous pouvez l'utiliser pour certaines demandes particulières, pour des gens qui ont perdu des objets. Donc on va partir de cette technique particulière, la régression d'âge, pour vous expliquer comment conduire le début d'une séance et comment expliquer comment on conduit une séance à votre patient, ce que nous venons de faire, et puis commenter la première partie de la séance qui est la phase d'induction. Et on verra un peu plus tard dans le cours, dans la formation, la conduite proprement dite et le détail d'une séance commentée, enfin les visualisations commentées. Voilà, donc au prochain podcast.